tous. Prions le Seigneur. Seigneur, tout nous tenons devant toi. Et Seigneur, nous te prions que tu ouvres nos cœurs ce matin, comme tu as ouvert le cœur de Lydie, que tu ouvres des cœurs dans cette assemblée, Seigneur. Que ton esprit soit parmi nous et que tu nous aides à comprendre ta parole. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, « De quoi sommes-nous sauvés ?» De quoi sommes-nous sauvés ? Et s'il y a bien une caractéristique dans le mouvement évangélique, c'est que nous proclamons que nous sommes sauvés, et nous le chantons même dans des cantiques comme « Sauvé, combien j'aime le dire » ou « J'ai l'assurance de mon salut ». Mais est-ce que nous sommes bien clairs sur ce dont nous sommes sauvés ? Parce que quand on dit qu'on est sauvé, en général, on est sauvé de quelque chose. On est sauvé d'un incendie, on est sauvé de la maladie. Pendant la guerre, il y a eu des Juifs qui étaient sauvés de la déportation. Le bébé Moïse fut sauvé des eaux. Mais nous, les évangéliques, si nous sommes certains d'être sauvés, sommes-nous bien sûrs de quoi nous sommes sauvés ? Et la question peut paraître évidente, mais je ne suis pas sûr que ce dont nous pensons être sauvés soit clair pour tout le monde, et en particulier pour le monde, pour les gens du monde. Si, par exemple, vous proclamez l'évangile dans les rues en disant aux personnes « Soyez sauvés », et que tout naturellement, ils vous posent cette question pleine de bon sens « Mais de quoi ? Sauvés de quoi ?» Que leur répondrez-vous ? Et c'est la question la plus élémentaire, n'est-ce pas ? Et nous allons regarder ce qu'en dit la Bible. Et on va d'abord regarder dans Romains 5, au verset 9. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus, c'est donc une première réponse à notre question, le sang de Jésus nous sauve de la colère. Et le mot colère est souvent utilisé seul dans le Nouveau Testament, comme dans ce verset, ou bien dans des expressions telles que « enfant de colère » ou « laisser agir la colère ». Et il est évident, quand on regarde ces passages, qu'il s'agit là de la colère de Dieu. Il y a une trentaine de références à la colère de Dieu dans le Nouveau Testament. Parfois, cette colère semble être un état continu de Dieu par rapport au péché. Par exemple, quand Jésus dit que celui qui ne croit pas au Fils, de celui qui ne croit pas au Fils, que la colère de Dieu demeure sur lui. Ou bien dans Romains 18, Paul parle au présent et dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et la suite du texte indique que la colère de Dieu, dans ce cas, se manifeste par le fait que Dieu livre les hommes à leurs propres péchés. Et ceux qui sont sauvés de cette colère de Dieu qui se manifeste dans le temps présent. Mais les hommes incrédules ne croient pas à cette colère. Dans le temps présent, ils nient même l'existence de Dieu. Ils ne perçoivent pas son œuvre dans leur vie et ils attribuent leurs circonstances à tout sauf à Dieu. Mais Dieu a fixé un jour où il y aura une manifestation évidente de sa colère. Elle ne pourra échapper à personne et personne n'y échappera. Et cette manifestation, le Nouveau Testament l'intitule « La colère à venir ». Regardons dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Et nous avons Jean-Baptiste qui en parle. On va regarder au verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et au verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et au verset 12, « Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » On voit dans ces versets que cette colère se manifeste par un feu qui ne s'éteint point. Et ce feu est une référence classique à ce qu'on appelle l'enfer. On a un autre passage qui associe clairement la colère de Dieu au châtiment de l'enfer. On le trouve dans Apocalypse 14, au verset 9. Apocalypse 14, verset 9, si vous voulez bien y tourner vos Bibles. On commence au milieu du verset 9. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et nous allons donc regarder cette colère à venir en faisant une petite étude sur ce qu'on appelle l'enfer. En réalité, le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible sous cette forme, mais sous le concept de ce qu'on appelle enfer, il y a deux vérités bibliques que nous allons regarder. La première s'appelle le séjour des morts, et la deuxième, les temps de feu. Ces deux choses n'interviennent pas au même moment sur le plan chronologique. Nous allons d'abord regarder, donc dans Luc au chapitre 16, une description du séjour des morts. Ce séjour des morts, il est évoqué souvent dans l'Ancien Testament, mais ici, il est décrit avec beaucoup plus de précision que les références de l'Ancien Testament. Donc Luc chapitre 16, du verset 19 à 26. Il y avait un homme riche. Donc Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » J'attire votre attention sur trois choses dans ce passage. Tout d'abord, l'homme riche a été enseveli, donc il a été mis dans un tombeau, son corps a été mis dans un tombeau, et pourtant, immédiatement après, il est dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc ce séjour des morts n'est donc pas un endroit où les personnes se trouvent avec leur corps physique. Mais pourtant, elles sont conscientes, elles peuvent communiquer et elles peuvent ressentir. C'est probablement leur âme qui se trouve là, mais dans un mode d'existence qui permet de communiquer et de ressentir. Et on n'en sait pas plus. En tout cas, on voit deuxièmement que c'est un lieu de tourment, de souffrance, conscient. L'homme riche souffre dans les flammes, est-il dit. Et troisièmement, c'est un lieu qui est séparé totalement du lieu de bénédiction dans lequel se trouve Lazare, donc qui est appelé ici le Saint d'Abraham, et je pense qu'on pourrait également l'appeler le paradis. Donc il est séparé totalement, et il n'y a pas de possibilité de retour, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Il est totalement séparé du lieu de bénédiction. En fait, la destinée de l'homme riche, dès qu'il se trouve dans le séjour des morts, sa destinée est scellée. Elle est scellée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, on va regarder un autre passage en Apocalypse 20. Et ce passage nous parle de l'étang de feu. Apocalypse 20, au verset 11. Ce passage nous parle aussi d'ailleurs du séjour des morts. Il fait le lien entre les deux. Verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cet événement donc se déroule à la fin des temps. C'est le jugement dernier, juste avant l'apparition de la Jérusalem céleste. Et s'il y a un jour de colère, c'est bien ce jour-là. C'est le jour du jugement de tous les hommes par Christ. Et nous savons que c'est un jugement par Christ, puisque Paul en parle en ces termes dans Actes 17, lorsqu'il dit « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » On ne le voit pas clairement dans ce passage, mais il est certain que cette résurrection, ce jugement, les hommes, quand ils sont jugés dans leur corps physique. Dans Jean 5, 29, Jésus dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ils sont donc dans leur corps physique. Maintenant, si vous regardez Apocalypse 20 au verset 13, on parle du séjour des morts dont on vient de parler tout à l'heure. Et il est dit que le séjour des morts rendit les morts qui étaient en lui, puis le séjour des morts est jeté dans les temps de feu. Donc voilà ce qui se passe immédiatement après la mort. Les âmes des hommes qui ne sont pas sauvées se retrouvent dans le séjour des morts. C'est un lieu de tourment conscient dont on ne peut pas sortir. Et à la fin des temps, tous les hommes ressuscitent corporellement, ils sont jugés, et le séjour des morts, il est jeté dans les temps de feu. En fait, ce séjour des morts, c'est, comme on dit en droit français, de la détention préventive. Donc pour les criminels dangereux, on les met en prison même avant de les juger, parce qu'on sait qu'ils sont dangereux et que l'issue de leur jugement sera certainement négative. Et donc ils sont détenus en attendant leur procès. Le procès, c'est le jugement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire très rapidement sur le séjour des morts et les temps de feu. Maintenant, regardons un peu en détail les temps de feu. On n'a pas le temps, évidemment, de parcourir tous les passages. Il y en a beaucoup. Et on va essayer d'en prendre quelques éléments. Et tout d'abord, il faut noter que c'est Jésus qui a le plus parlé de l'enfer. Il a plus parlé de l'enfer que du paradis. Il en parle de façon détaillée, notamment en Matthieu 13, il en parle aussi en Matthieu 25, et encore dans beaucoup d'autres passages. On peut retenir quelques informations sur cet enfer, sur cet temps de feu. Jésus utilise, d'abord c'est un lieu de désespoir. Un lieu de désespoir. Jésus utilise 7 fois l'expression « là où il y a des morts, il y a eu des pleurs, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est un lieu de souffrance terrible. Jésus l'appelle une fournaise ardente. On a vu qu'Apocalypse 14 parle de tourments dans le feu et le soufre et qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Apocalypse 20 en parle comme un étang de feu. Troisièmement, c'est un lieu d'isolement et de séparation de Dieu. On a vu que l'homme riche était séparé de Lazare, mais ça continue dans l'enfer, dans les temps de feu. Jésus l'appelle les ténèbres du dehors. Et Paul, en 2 Thessaloniciens, dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et le châtiment, comme on vient de le voir, est éternel. C'est mentionné par Paul. C'est également mentionné en Matthieu 25, où Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tout à l'heure, nous avons vu que Jean-Baptiste parle du feu qui ne s'éteint point. En Matthieu 18, verset 8, Jésus dit qu'il vaut mieux entrer dans la vie boiteux ou manchot plutôt que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Est-ce que ce que nous venons de voir commence à vous donner une idée de la colère à venir? On ne peut pas commencer à imaginer l'horreur de l'enfer. On a du mal à supporter une petite brûlure. Quand vous lisez les récits des mises à mort, des bûchers sur lesquels les chrétiens du temps de la Réforme ont été brûlés, On est horrifié, on est saisi d'effroi. Et pourtant, leur supplice ne durait que, entre guillemets, que quelques dizaines de minutes, peut-être une heure ou deux. Mais le feu de l'enfer est éternel. Et j'aimerais vous lire un passage d'un prédicateur américain, Jonathan Edwards, un sermon très célèbre qu'il a prêché sur l'enfer et qui a été d'ailleurs puissamment utilisé par le Seigneur pour un réveil aux États-Unis dans les années 1740. Je lis un court extrait. Je pense qu'il rend parfaitement ce qu'on peut imaginer sur cet endroit. Il serait terrible d'endurer un seul instant la colère de Dieu, mais il vous faudra la subir pendant toute l'éternité. Cette misère aiguë et horrible n'aura pas de fin. En levant les yeux vers l'avenir, vous n'y verrez qu'une durée sans limite qui engloutira vos pensées et vous frappera d'ébahissement. Un parfait désespoir de ne jamais connaître de délivrance ou quelque adoucissement s'emparera de vous. La certitude vous habitera de devoir endurer cette vengeance impitoyable et toute puissante des siècles sans fin, des millions et des millions de siècles. Et même alors, vous saurez qu'il ne représente qu'un souffle devant ce qui vous attend. Oui, votre châtiment sera réellement infini. Certains disent que les flammes sont à prendre au sens figuré. C'est vrai que la Bible utilise parfois le langage figuré. Mais quand elle le fait, ce n'est pas pour grossir, amplifier la mesure du châtiment. Mais c'est plutôt parce que les mots manquent pour le décrire. Si les flammes sont utilisées au sens figuré pour décrire l'enfer, c'est que l'auteur n'a rien trouvé de mieux que nous puissions comprendre. J'ai entendu même un pasteur, un homme de Dieu, qui pense que les flammes sont utilisées au sens figuré. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il a fait la remarque suivante. Il dit « La souffrance des gens qui sont en enfer est telle qu'ils préféreraient se trouver dans un lac de feu. » On a vu également que le châtiment de l'enfer est décrit par Paul comme une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est sûr que si vous dites ça à un incroyant cynique, il vous dira « Si c'est que ça, ça ne me fait pas peur. » En effet, il se voit comme déjà séparé de Dieu. Et nous, est-ce que quelque part, on n'a pas un peu plus peur des flammes de l'enfer que d'être séparé de Dieu dans notre incrédulité ? Mais pensez à ce que ça veut dire d'être totalement séparé de Dieu, même pour un incroyant. Tous les hommes sauvés ou perdus dans ce monde bénéficient en abondance de la grâce de Dieu. Ils ont du travail, des amis, une femme ou un mari, des enfants. Quand ils ont mal, un médicament leur enlève la douleur. Quand ils ont faim, ils mangent. Quand ils sont fatigués, ils dorment. Ils vivent dans un monde magnifique sur lequel le soleil se lève tous les jours, qui est arrosé par les pluies bénéfiques envoyées par le Seigneur. Et toutes ces grâces qu'on appelle grâce commune, viennent de Dieu. Imaginez une existence éternelle, privée de toute cette grâce de Dieu. Pas de sommeil, pas de repos, pas de soulagement, pas de lumière, pas de nourriture, pas d'eau, pas d'affection, pas d'amitié. N'est-ce pas un tourment insoutenable ? Et cela n'exclut pas les flammes. Il y a des théologiens évangéliques qui mettent en question la nature éternelle de l'enfer. Ils sont partisans de ce qu'on appelle l'annihilationnisme. Sachez également que c'est la position des témoins de Jéhovah. Ça vient du mot « annihiler », c'est-à-dire réduire à néant, à rien. Selon eux, le lac de feu serait un endroit de destruction définitive, pas de tourment. Ces gens ne peuvent supporter l'idée de l'enfer parce qu'ils disent qu'elle est émotionnellement insoutenable. Alors ils font comme les autruches, ils s'enfoncent la tête dans le sol pour ne pas voir le danger arriver. Mais le danger est bien là. Cette attitude est criminelle car ces gens déforment la parole de Dieu pour en enlever la force. Et ils répondront devant le Seigneur, de leurs enseignements. C'est le châtiment ultime de Dieu, la destruction. Mais qu'ai-je à craindre ? Qu'ai-je à craindre ? Ce sera un mauvais moment à passer. Et puis après, on sombrera dans l'inconscience. L'inconscience, ce n'est pas un châtiment, c'est ce que tout le monde veut. L'inconscience. Mais le châtiment sera conscient et éternel. Et les hommes regretteront à l'infini d'avoir rejeté l'offre de salut qui est en Jésus-Christ pendant toute leur vie terrestre. Parce que cette offre, elle est offerte à tous aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de grâce. Quelqu'un est peut-être gêné que je vous parle d'un sujet aussi choquant. Il faudrait plutôt parler de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu consiste justement en ce qu'il a répandu le sang de son Fils innocent à la croix du calvaire pour que des hommes coupables n'aient pas à subir cette colère. Ce qui est choquant, ce n'est pas de parler de l'enfer. Ce qui est choquant, c'est d'en parler si peu. C'est d'en parler si peu. Combien y a-t-il de chrétiens sauvés dans notre pays? Combien y a-t-il de chrétiens sauvés dans notre pauvre pays? Quelle est la proportion des gens que vous croisez tous les jours dans le métro, au travail, dans vos familles, parmi vos proches qui sont sur le chemin, le vaste chemin qui mène à la perdition? 99%? 99,9%? Mais nous, nous savons. Nous savons. Nous ne pouvons pas rester muets. Dieu ne nous le permet pas. Dieu ne nous le permet pas, et il l'a dit textuellement en Ézéchiel 36, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai le sang à la sentinelle. Le Seigneur nous redemandera le sang de ceux auxquels nous aurons pu annoncer le châtiment à venir et nous ne l'avons pas fait. Je ne sais pas si vous craignez l'enfer, mais si vous ne craignez pas l'enfer, vous êtes fou. Vous êtes insensé. Si votre position par rapport au Seigneur n'est pas claire, vous êtes en grand danger et vous devez être dans la crainte. Heureusement, il y a beaucoup de personnes dans nos milieux évangéliques qui ont entendu parler de l'enfer et qui veulent en être sauvées. Qui parmi nous, qui croit que la Bible est la parole de Dieu et qui a entendu parler de la colère à venir, ne veut pas être préservé de cette colère? Personne, je l'espère. Pourtant, est-ce qu'il est suffisant de vouloir être sauvé de l'enfer pour être réellement sauvé de l'enfer? Est-ce que ça suffit d'avoir peur de l'enfer? Est-ce que ça suffit d'être sincèrement terrorisé par les flammes pour échapper à la colère? Est-ce que ça suffit? Frères et sœurs, nous voulons être sauvés de la colère à venir, mais il y a une chose dont la Bible dit également que nous devons être sauvés. Ça se trouve en particulier en Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. C'est la deuxième réponse à la question de quoi sommes-nous sauvés. Matthieu 1, verset 20. C'est le récit de la nativité. Et c'est un ange donc qui parle à Joseph et qui dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus nous sauve de la colère à venir, et il nous sauve également de nos péchés. Je dirais même que pour que Jésus nous sauve de la colère à venir, il faut d'abord qu'il nous sauve de nos péchés. Nous voulons être sauvés de la colère à venir, c'est sûr, mais est-ce que nous voulons être sauvés de nos péchés? Pas seulement de leurs conséquences, c'est-à-dire le jugement, mais également de leur puissance. Vous qui avez peur de l'enfer dans votre cœur, est-ce que vous voulez être sauvés de la puissance de vos péchés? Regardons dans nos Bibles en Marc 10, 17. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, lui ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Combien d'évangélistes aimeraient rencontrer un homme comme celui-là? Jésus est en train de se mettre en route pour quitter le lieu où il se trouve, mais cet homme ne veut pas le rater. Et il court vers lui, ça court, il accourt, il se jette à ses pieds. Cet homme dont Luc nous dit que c'était un chef, donc c'était un homme respectable, un homme riche, un homme puissant. Et il a fait fi de toutes les convenances pour pouvoir parler avec Jésus. Il se jette à ses pieds. Il s'humilie. Il commence bien, si on peut dire. Il est travaillé dans son cœur par cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme, il n'est pas nonchalant, il n'est pas détaché. Il est vraiment impliqué. Et cette question de la vie éternelle le travaille probablement beaucoup. Peut-être qu'il a peur de l'enfer, comme certains d'entre nous ce matin. Et la réponse de Jésus est surprenante. À presque la même question, Paul a répondu au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est évidemment une bonne réponse. Mais Jésus répond un peu différemment. Il connaît le cœur de cet homme, et le texte dit même qu'il l'aime. Il va d'abord le tester sur certains commandements de la loi de Moïse, et le jeune homme lui répond un petit peu vite, sans doute qu'il les a déjà tous pratiqués. Alors Jésus met le doigt sur son problème, sur un péché qu'il n'a pas envie d'abandonner, c'est l'amour de l'argent, son amour des richesses. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et le texte nous dit qu'affligé de cette parole, il s'en alla parce qu'il avait de grands biens. La réaction du jeune homme riche est terrible. Il avait devant lui le sauveur du monde. Il lui a posé la question clé. Et Jésus lui a répondu très clairement. Et pourtant, cet homme a sciemment refusé de le suivre. Il était affligé, certes, mais il était perdu. Il est certain que cet homme voulait être sauvé de la colère à venir. Il est certain aussi qu'il avait très bien compris la réponse. Il avait compris que c'était la vérité. C'est pour ça qu'il était triste. Mais il a refusé de le suivre. Il voulait être sauvé de la colère à venir, mais il ne voulait pas être sauvé de son péché. Son péché d'amour de l'argent. Et je pense que la réaction de cet homme provient d'une vision incomplète du salut. Je vais lire pour vous un verset qui est dans le Sermon sur la montagne, et je pense qu'on l'étudiera bientôt, dans Matthieu 7, verset 13. On peut le regarder si vous voulez, Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Jésus dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se faufiler par la porte étroite, en faisant une prière pour demander à Jésus de venir dans leur cœur. Mais ce qu'ils ont oublié, ou ce qu'on a oublié de leur dire, c'est qu'il n'y a pas que la porte qui est étroite, mais le chemin aussi est étroit. C'est peut-être un chemin rocailleux, difficile. Et le jeune homme riche, il était prêt à passer par la porte étroite, mais il voulait continuer à marcher sur le chemin spacieux. Il voulait être sauvé de la colère, mais pas de son péché. Il voulait être sauvé de l'enfer, mais garder la jouissance de ses richesses. Jésus a utilisé une méthode similaire avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, où lui a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » La femme était intriguée, intéressée, elle lui a dit « Donne-moi de cette eau !» Et que lui a dit Jésus ? « Appelle ton mari. Appelle ton mari. » En fait, elle a eu 5 maris, et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Et comme avec le jeune homme, Jésus a mis le doigt sur ce péché que la femme devait abandonner si elle voulait pouvoir boire de l'eau que proposait Jésus. Ici, ce n'est pas la richesse, c'était l'immoralité. Il y a certainement parmi nous des personnes qui veulent être sauvées, sincèrement sauvées de l'enfer, mais est-ce que vous voulez être sauvées de votre péché? Vous voulez boire à cette source d'eau qui jaillira jusqu'en la vie éternelle, mais est-ce que vous êtes prêts à abandonner vos idoles? Un autre texte en Luc 14, 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus est vraiment surprenant. Il y a des hommes qui font tout pour remplir des stades, des soi-disant évangélistes ou des soi-disant hommes de Dieu qui remplissent des stades, notamment aux États-Unis. Jésus a l'impression qu'il veut vider les stades. Parce qu'en fait, il veut des gens qui ont pour lui un amour authentique. Pas des gens qui veulent juste être sauvés de l'enfer. Des gens qui ont pour lui un amour authentique. Dans ce passage, Jésus n'est pas en train d'enseigner la haine de nos proches. Jésus respecte les commandements de Dieu. Mais il nous dit que nous devons l'aimer plus que tout ce qui nous est le plus cher et être prêts à renoncer pour lui à tout ce que nous avons de plus cher. Alors, vous voulez être sauvés de l'enfer, d'accord, mais est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner pour Jésus? Quelqu'un a dit que, écoutez bien cette phrase, quelqu'un a dit que le salut est gratuit, mais qui vous coûte tout ce que vous avez. Le salut est gratuit, mais il vous coûte tout ce que vous avez. Il y a un autre homme qui est, je crois qu'il s'appelle Jim Elliot, qui est un missionnaire dans les années 50 en Amérique du Sud, qui a été tué en fait par les Indiens de cette tribu d'Amazonie qui cherchait à évangéliser. Il a dit qu'il n'est pas fou celui qui est prêt à perdre ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui est prêt à perdre ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Jésus compare la relation du chrétien avec lui, comme vous le savez, à celle d'un sarment de vigne avec le cep de la vigne, c'est-à-dire la branche de l'arbre, de l'arbuste qui est la vigne, avec la racine. Et il dit donc cette phrase bien connue, « Tout sarment qui porte du fruit, mon père le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » J'ai passé les premières années de ma vie professionnelle en Bourgogne, à Dijon, qui est une région connue pour le vin. Et effectivement, dans toute cette région, il y a des vignes partout. Là où il y a des champs de blé, en Île-de-France, là, il y a des vignes. Et elles sont très bien entretenues. Chaque cep de vigne ne porte qu'un seul sarment, qui est délicatement attaché à des fils de fer qui sont tendus entre des poteaux le long des vignes. Ça nécessite beaucoup de travail, et c'est un travail méticuleux des vignerons. Écoutez un texte qui n'est pas de la Bible, mais qui explique pourquoi il est indispensable de tailler la vigne. Et pourquoi Jésus donc prend cette image. La vigne est une plante très vigoureuse qui a tendance à se développer énormément. Laissée sans taille une année, elle s'agrandirait 10 à 20 fois trop. La seconde année, elle ne pourrait assumer une charpente aussi importante. Elle s'étiolerait, les raisins seraient petits et sans intérêt. La troisième année, les raisins avariés seraient immangeables et la vigne malade deviendrait irrécupérable. Et vous comprenez pourquoi le Père doit tailler la vigne. Et est-ce que vous êtes prêt à vous laisser tailler par le Père? Chaque coup de sécateur, c'est un péché qu'il enlève. Chaque branche qui coupe, c'est une idole qui est abandonnée. Et s'il ne le fait pas, la vie est étouffée, elle ne porte pas de fruits, et ce n'est pas la vie chrétienne. Et c'est pour ça que le chemin est étroit. C'est dur la vie chrétienne. Ceux qui sont réellement au Seigneur le savent bien. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de renoncer à tout. Et cette affaire est très sérieuse. Le vigneron ne taille pas la vigne pour qu'elle soit jolie. Il taille la vigne pour qu'elle vive. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul fait une liste de péchés, il y en a une quinzaine je crois, et il dit que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ne pas hériter du royaume de Dieu, c'est finir en enfer. Il n'y a pas les gens qui héritent du royaume de Dieu, ceux qui vont en enfer, et puis les autres. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Et voici quelques péchés qu'il cite. Et combien ils sont proches de nous. L'immoralité sexuelle, peut-être pas, je ne sais pas. Donc l'immoralité sexuelle, les querelles et l'animosité. Qui peut dire qu'il n'est jamais soumis à ses péchés? L'abus d'alcool aussi. En gros, ce que Paul nous dit, c'est qu'il nous dit, vous avez une relation hors du mariage, vous irez en enfer. Vous vous disputez avec les autres, vous finirez en enfer. Vous êtes alcoolique, vous finirez en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Et c'est exactement ce qu'il dit. Il y a d'autres passages similaires où la parole parle de l'homosexualité, de la calomnie, du mensonge, du vol, de l'adultère. de façon similaire. Alors quelqu'un dira, mais je ne comprends pas. Que faites-vous du salut par la foi? Vous êtes en train de prêcher le salut par les œuvres? Alors je réponds à ceci de la façon suivante. Il y a plusieurs aspects dans le salut. Écoutez bien, c'est vraiment important. Tout d'abord, il y a un aspect judiciaire dans le salut, il y a un aspect judiciaire. Le salut consiste à nettoyer notre mauvais casier judiciaire, si je puis dire ainsi. Tout à l'heure, j'ai pris l'image d'une personne qui est en détention préventive. Elle se trouve en détention préventive parce qu'elle a un mauvais casier judiciaire. Et elle a un mauvais casier judiciaire devant Dieu. Son casier judiciaire, ce sont tous ses péchés accumulés que Dieu doit juger. Lorsque nous mettons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, le sang de Jésus nous lave de tout péché. Notre casier judiciaire est lavé, la justice de Christ nous est imputée sans les œuvres. Sans les œuvres. La justice s'obtient au salut et pendant toute notre vie sans les œuvres. C'est une imputation gratuite sur la base de la foi. Et donc ce qui se produit, c'est littéralement là une transaction judiciaire. D'ailleurs, on est un peu étranger à cette transaction judiciaire. Elle se produit dans le tribunal du ciel et Dieu, il nous acquitte judiciairement parce qu'il a fait payer finalement notre dette par Jésus-Christ. C'est Christ qui paye à notre place. On est vraiment dans un domaine judiciaire, et d'ailleurs on appelle ça la justification. La justification. Vous êtes certainement familier avec cet aspect du salut. Mais maintenant, nos problèmes ne se limitent pas à cela. Non seulement nous avons un mauvais casier judiciaire, mais nous avons aussi un mauvais cœur. Et le fait de la justification ne change pas notre cœur. La justification, elle nettoie nos péchés. C'est un acte légal. Mais on a toujours ce mauvais cœur s'il n'y a que la justification. Et d'ailleurs, si on a un mauvais casier judiciaire, c'est parce qu'on a un mauvais cœur. Et donc, le deuxième aspect du salut, c'est que Dieu change notre cœur. Et ce changement de cœur, il est total. C'est une nouvelle naissance. Et on appelle ça aussi la régénération, qui veut dire être créé de nouveau. Donc, il y a deux aspects dans le salut. La justification, la régénération. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont étroitement liées. Elles sont très liées dans la Bible quand elles sont présentées. On verra un passage. L'un ne va pas sans l'autre. Vous n'avez pas des personnes régénérées, mais pas justifiées. Et vous n'avez pas des personnes justifiées, mais pas régénérées. Moi, j'en ai croisé beaucoup, des personnes qui pensent qu'elles sont justifiées, mais qui ne sont pas régénérées. Je pense que c'est un mal du christianisme aujourd'hui, dans l'Ouest. Des gens qui croient qu'ils sont justifiés, mais qui ne sont manifestement pas régénérés. Écoutez un passage d'Ézéchiel qui parle de la justification de la nouvelle naissance. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel 36, 25. J'en ai presque terminé. Je dis ça pour vous encourager. Ézéchiel 36, 25. Mais le plus important est encore à dire. Ézéchiel 36, 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous suiviez et que vous pratiquiez mes lois. » Oui, m'excusez. Vous voyez, dans ce passage, vous avez d'abord l'eau qui est répandue et qui purifie les souillures, au verset 25. Cette eau qui purifie les souillures, ce n'est pas la régénération, c'est la justification. C'est vraiment l'image de Dieu qui nous lave de nos péchés par le sang de Jésus. Ensuite, au verset suivant, il y a l'image d'une transplantation cardiaque, où notre cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair. C'est une magnifique image de la régénération, de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. Paul, on l'a vu à l'étude biblique mardi, il y a une autre image où il parle du vieil homme qui est mis à mort avec Christ, ça c'est le cœur de pierre, et de l'homme nouveau qui est ressuscité avec Christ, c'est le cœur de chair. Et au verset 27, on voit aussi que Dieu donne son esprit. Et il y a un passage similaire dans Jérémie 31-33 qui dit qu'il écrit sa loi dans nos cœurs. Et c'est la même idée ici. Et il fait que nous la pratiquions. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 119 et dans d'autres psaumes, est capable de dire qu'il fait de la loi ses délices. Donc pour ne pas aller en enfer, il faut être justifié. Il faut être justifié. Ça, c'est la condition pour ne pas aller en enfer. Mais vous ne pouvez pas être justifié si Dieu ne fait pas de vous une nouvelle créature. Si vous dites que vous êtes justifié, mais que votre mode de vie ne montre pas que vous êtes une nouvelle créature, écoutez-moi bien, si vous dites que vous êtes justifié, mais que votre mode de vie ne montre pas que vous êtes une nouvelle créature, alors vous vous trompez vous-même. Vous n'êtes pas justifié et vous êtes sur le chemin qui mène à la perdition. Il était impossible au jeune homme riche d'abandonner ses richesses de lui-même. Il fallait qu'il devienne une nouvelle créature. On parlait avec un frère de l'amour ce matin. C'est très difficile d'aimer. C'est impossible à la chair d'aimer. Pour aimer, il faut être une nouvelle créature. Et il nous est impossible à chacun d'entre nous, par nos propres forces, de tourner le dos à nos péchés pour suivre Christ. Il faut que nous naissions de nouveau. Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est Dieu par son esprit qui opère cette nouvelle naissance. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Si vous avez peur de l'enfer, si vous n'êtes pas sûr de votre statut devant Dieu, ce que vous devez faire, c'est courir à celui qui a le remède pour vos péchés. Il n'y a qu'en Dieu que vous pouvez être protégé de la colère de Dieu. Mais si vous courez à lui quand il vous dira « Abandonne tel péché et suis-moi », pensez au péché le plus cher que vous avez dans votre cœur. Si vous dites « Abandonne tel péché et suis-moi », vous devez le suivre en ayant la pleine conviction qu'avec le commandement de le suivre, il vous donnera aussi la capacité d'abandonner ce péché. Quand Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Il lui a parlé. Dans les autres résurrections, il n'a pas parlé. Mais là, il a parlé à Lazare. Il a parlé avec sa voix. Et Lazare s'est levé, il est sorti du tombeau. Est-ce que Lazare avait la force en lui-même de sortir du tombeau? Alors quand Jésus vous dit « Suis-moi », alors croyez qu'il vous donnera la force de le suivre. Peut-être que vous dites en vous-même « J'ai peur de la mort, j'ai peur de l'enfer, mais il y a cette chose que je ne veux pas abandonner. » C'est peut-être un goût pour les biens matériels, pour les richesses. C'est peut-être une relation en dehors du mariage. C'est peut-être une addiction. C'est peut-être de mauvaises fréquentations, de la haine pour une personne. Mais tout ça, c'est le sommet de l'iceberg de nos péchés. Vous savez, les icebergs, ils montent que 10%. Tout le reste est en dessous. Tout ça, ce sont des choses visibles. Ce que le Seigneur nous demande à tous d'abandonner, c'est un style de vie qui est entièrement marqué par le péché. Et ça s'appelle le repentir. Alors, mes amis, courez à Christ avec votre péché. Il ne vous rejettera pas. Il l'a promis. C'est magnifique. Il a promis qu'il ne nous rejettera pas. Il ne rejette personne qui vient à lui. Pécheurs, et nous sommes tous des pécheurs, les pires, croyants ou incroyants, si on va à lui, il ne rejette personne. Et si vous êtes angoissé par la peur de l'enfer, parce que vous savez que vous êtes un pécheur et ça vous écrase, quand vous y pensez, vous paniquez. Il a dit, venez à lui parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et si vous peinez sous le dur esclavage du péché, parce que le péché c'est un esclavage, allez au Fils, parce qu'il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Courez à Christ tel que vous êtes, et faites-le aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Et faites-le aujourd'hui parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Prions.